Eh bien, bien bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre, de retour au cinéma à Évreux dans le cadre du Festival du film d'éducation, 7e édition. Deuxième jour, nous concernant, de direct, alors que cet événement est entré dans sa 3e journée. On rappelle qu'il vous reste ce soir et jusqu'à samedi inclus afin de profiter de ces projections qui ont, qui sont pour certaines, des avant-premières, ce qui n'est pas rien. Mais pour l'ensemble, des œuvres aux différents formats, suscitant systématiquement émotion, réflexion, découverte et même débat. Vous l'aurez compris, et nous sommes là pour vous l'affirmer, ces projections ont un réel intérêt à être vues et partagées. L'an passé, d'ailleurs, nous avions été éblouis par l'une de ces projections. Il s'agissait de Parure pour Dames. Éblouis, Parure pour Dames, vous y verrez peut-être un lien. Dont la réalisatrice, Nathalie Joyeux, fut finalement primée. Et aujourd'hui, présidente, elle est, du grand jury, et à son tour, décernera le grand prix, elle et ses acolytes. Elle nous fait le plaisir d'être, une fois de plus, autour de nos micros, accompagnée d'une personne du jury jeune, en l'occurrence, Marc. Nathalie, avant tout, félicitations de vive voix, et merci d'être autour de nos micros. Bonjour.
Bonjour.
Nathalie, s'il vous plaît, Nathalie Joyeux, on le rappelle, réalisatrice de Parure pour Dames, qui a donc été, on dit quoi, lauréat, primé ? J'étais dans le vrai ?
Oui.
De Parure pour Dames. Je voudrais avant tout savoir pourquoi on ne vous a pas vu nominée au Festival de Cannes.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas ?
Je n'ai pas la réponse à la question.
Vous n'avez pas la réponse ?
Non.
Alors, Parure pour Dames, on en parlait en off, s'il vous plaît, dites-moi en vrai, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Parce que je pense que l'actualité est autre, mais... Ce film a été rangé dans un tiroir, il se l'est fait approprier par des diffuseurs, des chaînes de télévision. Parure pour Dames, c'en est où aujourd'hui ?
Alors, le film a été diffusé à la télévision sur Public Sénat à 6 reprises, sur TV Tour aussi, puisque TV Tour était coproducteur du film. Et puis, sinon, grâce au festival notamment, il a voyagé dans toute la France, pour rencontrer en salle de cinéma son public. Et puis, je continue là, à me promener avec lui encore. Ça va forcément s'épuiser au bout d'un moment, mais là, je continue à l'accompagner dans des salles de cinéma.
Je voudrais pas parler de résultats, mais avec des prix aussi encore, où ça a été un moment fort l'an passé, le Festival du film d'éducation 6e édition.
Non, c'est le seul prix qu'il a reçu. Après, les diffusions, c'est pas forcément dans des festivals. Il y a eu d'autres festivals. Mais là, par exemple, les prochaines projections, c'est des projections dans des salles de cinéma, dans le cadre du mois du film documentaire. Encore d'autres projections avec les CMA à la suite du festival d'Évreux. Voilà. Et puis après, c'est un peu... Une projection, souvent, suscite une autre. Il y a... quelqu'un dans la salle souvent qui connaît un autre cinéma ou etc. et qui a envie de le faire découvrir à d'autres personnes et voilà, c'est comme ça que les projections s'enchaînent les unes les autres.
Eh bien, nous en sommes ravis. Aujourd'hui, vous êtes donc la présidente du jury, entre guillemets adulte, même si pour moi la personne en face de moi représentant le jury jeune en est un, jeune adulte. Vous êtes présidente du jury du festival, vous prenez votre rôle à cœur.
Oui.
Vous avez déjà visionné l'ensemble des courts-métrages ?
Non, on continue, on a encore plusieurs films à découvrir demain. On en a vu là maintenant une grande partie. Évidemment, c'est une grande responsabilité quoi, de devoir choisir deux films, de primer deux films.
Alors deux films, je veux bien un détail s'il vous plaît. Il y a en fait le grand prix et le second, ce serait quoi, une mention ?
Le prix spécial du jury.
Prix spécial, d'accord.
Voilà. Voilà, donc c'est pas une mission facile, mais en même temps très, très agréable, d'autant qu'on sait que ces prix vont permettre à ces films d'être découverts dans toute la France. Voilà, il y a ce plaisir-là aussi de donner cette possibilité à des films.
Oui.
Et puis, il y a aussi le plaisir d'un travail commun avec les autres membres du jury. Donc, moi, je travaille avec Vincent Deveux, avec Kim Massé, avec Jean-Louis Auduc et Damien Leblanc. On ne vient pas tous des mêmes horizons et c'est très enrichissant de confronter nos impressions sur les films.
C'est une première pour vous ? C'est une première expérience pour vous d'avoir ce rôle ? Au sein d'un festival ?
Non, j'ai déjà été membre du jury au Festival d'Arcueil, au Festival de films documentaires d'Arcueil.
D'accord. Et du coup, ça doit être quand même particulier lorsqu'on est d'une profession, même si je pense que c'est au-delà d'une profession de passion vous concernant, ça doit être particulier de juger un peu des confrères, pour certains que vous connaissez peut-être déjà. D'ailleurs, est-ce que vous en connaissez certains au départ ? Vous n'avez peut-être pas le droit de le dire.
Non, si, je peux le dire parce que ça n'entrera pas en compte dans mes choix de films. Mais oui, il se trouve que j'ai déjà croisé deux... Voilà, on ne se connaît pas non plus. Ce ne sont pas des amis, mais j'ai rencontré par ailleurs deux réalisateurs qui présentent leurs films. Voilà, mais ça...
Alors ça veut dire quoi bêtement ? Ça veut dire que lorsqu'on est présidente et que si par exemple là, vous êtes un chiffre impair ou un chiffre pair de nombre de jurys adultes en termes de personnes, c'est vous qui pouvez, s'il y avait égalité, trancher, vous avez une voix plus forte ou au contraire, non, vous mettez sur le même pied d'égalité, c'est parce qu'il fallait un ou une icône, une personne physique pour avoir ce statut, mais dans l'absolu, vous concertez et vous arrivez à trouver une justesse dans vos décisions.
J'espère qu'on va s'accorder ensemble simplement, qu'il n'y aura pas besoin d'une voix plus prioritaire que d'autres. J'espère que ce sera comme ça. Après, ça, je n'aurai la réponse à ça que
samedi.
Que demain soir.
Demain soir. Eh bien, écoutez, Nathalie, je voudrais juste conclure, s'il vous plaît, pour savoir, vous, votre actualité actuellement en tant que réalisatrice. Est-ce que vous avez déjà, depuis l'an passé, travaillé sur plusieurs films, courts-métrages, longs-métrages, films documentaires ou au contraire, vous démarrez une écriture, vous êtes... Qu'est-ce qui se passe pour vous, s'il vous plaît, Nathalie, actuellement ?
Alors, je travaille sur un film dont le tournage dure 4 années.
D'accord.
J'ai filmé des lycéens lors de la dernière année de lycée, au moment de l'année du bac, au moment où ils se posent des questions sur leur orientation professionnelle, et je les accompagne encore 3 ans après le bac. C'est un dispositif très intéressant parce que c'est un moment très, très important de la vie. Et donc on voit des gens qui doivent renoncer à leur projet professionnel, d'autres qui découvrent une voie.
Oui.
Et voilà, c'est très fort, je trouve.
Donc 3 années encore de
non,
travail.
Non, là, c'est la dernière année maintenant.
D'accord.
Voilà, le film devrait se terminer là en 2012, fin 2012.
Eh bien, nous suivrons ça, j'espère, de près. Et nous aurons, j'espère, le plaisir de pouvoir l'évoquer autour de nos micros. Merci, Nathalie.
Merci,
je vais rester en notre compagnie, sauf si vous devez assister à une autre projection, puisqu'on est en plein cœur encore du festival. Vous l'entendez dans ces bruits de fond. La salle est pleine, des gens rentrent, sortent de projection. Je vous en prie, si c'était le cas. On se tourne vers Marc. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Alors, Marc, on est ravis de te recevoir, puisque toi, tu es un des membres du jury jeune.
Oui, en effet. Alors, je ne suis pas le président. La présidente, c'est DC Badi Gomis, qui, elle, souhaitait continuer à assister au débat. C'est vrai qu'en tant que bonne présidente, il faut qu'elle soit là partout et tout le temps. Nous aussi, on est beaucoup sollicités, en fait. C'est-à-dire qu'on a un gros programme. C'est quand même des très grosses journées. On assiste à au moins 4 séances par jour, ce qui est un peu nouveau pour moi, personnellement.
Parce que toi, justement, tu es issu du milieu, tu es toi-même investi dans une classe cinéma, ou tu es un passionné, ou tu es peut-être le neveu de Christian Gautelier.
Presque, c'est presque ça. Alors en fait, si vous voulez, moi je suis étudiant à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui est une école du ministère de la Justice, qui forme des éducateurs protection judiciaire
PJJ,
de la jeunesse.
Okay.
Voilà, PJJ. Cela dit, moi j'ai un petit passé dans le cinéma parce que j'ai travaillé à la création d'une série de dessins animés qui passe actuellement sur France 5 dans Midi les Zouzous.
D'accord,
qui s'appelle Les Sauves Nature, qui fait un peu d'éducatif en fait, qui parle d'écologie aux enfants, voilà, c'est de la sensibilisation.
Et donc cette responsabilité te touche, te donne envie de t'investir pleinement. C'est quoi votre quotidien ? Tu disais, là, il y a 4 projections par jour, mais vous débattez le soir
Alors, déjà, on n'est pas simple spectateur, ce qui est déjà un peu plus compliqué, c'est-à-dire que c'est éprouvant, on est obligé d'être attentif tout le temps. C'est beaucoup beaucoup d'analyses, en fait, à chaque fin de séance, on en discute, et puis tout le jury jeune se retrouve le soir, un peu comme le grand jury, autour d'un repas pour faire le débriefing de la journée. Et je pense que les discussions vont être animées pour décerner notre prix, parce qu'on a chacun nos goûts, notre subjectivité personnelle.
Et justement, sur quels critères on se base pour déterminer le lauréat du film d'éducation ?
Alors, c'est la question que nous-mêmes nous posons. Moi, j'ai tendance à me laisser porter par ma subjectivité, puisque j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai été sélectionné. Je pense que si le jury jeune est aussi riche au niveau des horizons, un peu comme le grand jury, voilà, donc il y a des gens qui viennent d'une passion du cinéma, d'autres de l'éducatif. Voilà, c'est parce qu'on a des sensibilités différentes. Donc laissons-les agir, ces sensibilités-là, pour prendre une décision collective.
Eh bien, merci beaucoup, Marc.
Merci à vous.
Je conclurai juste par une chose. Il y a un rapport étroit entre vos... Je veux dire, à un moment donné, si par exemple, vous échangez pour savoir si vous ne seriez pas sur le même film, Nathalie, Marc, sur, par exemple, les prix décernés, il y a un moment quand même un échange entre les deux jurys pour peut-être, non pas échelonner, mais partager un peu les coups de cœur ou ceux qui vous ont marqué.
Ça, il faudra qu'on en rediscute avec les organisateurs. Pour le moment, ce qu'on nous a dit, c'est que si on voulait attribuer une mention, il fallait qu'on en discute ensemble. Pour les autres prix, on va en discuter.
Afin de ne pas faire doublon, quoi.
Voilà, le but est de ne pas faire doublon, c'est sûr. Ouais.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite plein d'abnégation, plein de justesse dans vos choix. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. On s'accorde une pause musicale et on revient tout de suite. Merci.
Merci.
Voilà que c'est déjà la fin du monde, les bonnes choses ont une fin. Et moi bien sûr j'ai rien prévu. Pas question de céder à la panique, de devenir hystérique en hurlant sauvez-moi. Ce matin j'ai pas bougé pour voir le terre des jours se lever. Rien à carrer du soleil, j'ai même pas mis mon réveil. Quitte à finir en beauté, autant faire une grasse matinée. Ici c'est un peu la panique, puisqu'autour de nous tout s'écroule. À poil je reste stoïque, j'attends que mon café coule. Fini les voyages oniriques tout seul tout nu dans ma mémoire. Fini les poules tueuses et les quais de gare. Merde, ça tient quand même pas à grand chose. Je verrai jamais ni New York ni le magicien d'Oz. Mais c'est trop tard pour regretter. Si c'est pour se plaindre, autant que j'aille me recoucher. On dit que dans la vie tout se paye, moi j'ai pas fait la moitié. Je vais pousser une gueulante pour me faire rembourser. Ici c'est un peu la panique, puisqu'autour de nous tout s'écroule. À poil je reste stoïque et j'attends que mon café coule. Sur l'origine des pyramides, sur la Joconde et sur les vestes en tweed. Le vrai visage de Dieu, pourquoi les vaches font meuh. Le budget d'armement et manque de prof évidemment. Dans mon fauteuil une dernière fois, je regarde courir la foule en écoutant un Sinatra. Et j'attends que mon café coule.
Principe actif, actif par principe, 102.4 FM, 102.4 FM, 102.4 FM.
De retour en direct du cinéma Pathé Évreux dans le cadre de ce festival du film de l'éducation, 7e édition je le rappelle, en présence toujours de Timothée et de monsieur Jean-François. Jean, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Jean qui, je vous le rappelle, est un petit peu notre... relais d'informations complets des tables rondes du matin, puisqu'il y a des projections de films, mais il faut s'arrêter aussi deux secondes sur le fait qu'il y ait des débats extrêmement intéressants menés tous les matins à l'aide de professionnels sur des thématiques extrêmement variées. D'ailleurs, cette année, Christian Gautelier l'expliquait qu'il n'y avait pas de fil rouge et qu'on abordait plusieurs thématiques. Aujourd'hui, c'était filles et garçons, deux petits points, grandir ensemble, point d'interrogation, et vous étiez empressé, vous, Jean, d'y assister.
Oui, on était deux,
Dominique Pasquier, qui est sociologue, et moi, ancien prof, psychologue, et qui a conduit une enquête de 2 ans auprès d'enfants et d'adolescents sur la mixité, comment ils la vivent, parce que j'ai un parti pris. Elle est parfois remise en cause aujourd'hui, pour la raison, j'ai presque envie de dire, pour les prétextes que les garçons réussissant moins bien à l'école, on s'inquiète de cela, mais on devrait aussi s'inquiéter du traitement réservé aux filles par les garçons, pour dire les choses crûment, les petits machos, dans un certain nombre de collèges et de lycées. Donc ça a été un débat intéressant, même assez chaud, où je pense qu'on a avancé sur cette réflexion. La mixité filles-garçons indispensable, et gros effort demandé aux éducateurs pour la réussir.
Alors, oui. Comme hier, un nombre important de personnes présentes.
Ah oui,
salle
oui,
pleine.
Oui. La salle quasiment. De 300, il y avait 250 personnes au début, et puis après des retards, on a frôlé les 300. Quoi.
Ah, de vrais échanges en perspective. Oui. Vous l'évoquiez hors micro en journée, donc des échanges presque houleux, parce que en fait, c'était une thématique qui s'y prêtait.
Oui.
Où les personnes présentes ?
Pas houleux, mais disons un petit peu vif et tendu, parce que chacune des personnes qui intervenaient dans la salle sont intéressées et préoccupées par cette
c'est l'avenir,
réflexion. Hein. Voilà. Et nos donc, qui avaient envie d'avancer leur position, qui avaient envie d'un petit peu se repérer, avec une difficulté toujours dans ces tables rondes, mais celle d'aujourd'hui me confirme qu'il faut continuer, c'est que la fourchette des auditeurs est énorme. Ça va même de lycéens de terminale ou d'étudiants de toute première année à des éducateurs sociaux qui ont 30 ans ou 40 ans de bouteille, et ils n'attendent pas forcément toujours les mêmes choses. Mais, comment dire, la cohabitation dans la salle et les échanges après sont riches, et ça permet de la capillarité dans un public qui est hétérogène. Et ce sera encore comme ça demain.
Alors je vais vous embêter. Hier, vous avez réussi à nous relever 2-3 points essentiels. Mmh. Pourriez-vous faire de même aujourd'hui ? Et rassurez-nous, on ne va pas repartir sur des écoles justement séparées, garçons-filles. En tout cas, ce n'est pas ce qui en ressortait.
Non. Nous, ce n'est pas du tout cette position. On peut vous rassurer. mais il ne faut pas se tromper. Dans certains milieux, c'est une petite position qui cherche à avancer ses pions. Donc les milieux d'éducation, et surtout tous les gens qui s'impliquent dans l'éducation de la République, on va dire, doivent rester vigilants, à mon avis.
Donc ce point-ci, mais un autre fort qui vous a marqué, parce que bah, forcément on ne pourra pas revenir sur l'intégralité des points échangés, vous, un point qui vous aurait marqué, ou une remarque, une parole, une phrase ?
Une parole, une phrase, plutôt à la sortie de la table ronde. Nous sommes contraints par les horaires, nous les respectons pour que le cinéma et les films gardent toujours toute leur place. Et bien, c'est presque un plaisir, c'est des gens qui se sentaient frustrés et qui disaient on aurait bien continué à échanger une demi-heure de plus. Quoi.
Donc,
Mais un peu de frustration, c'est pas mal.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On rappelle qu'il reste 2 jours de table ronde. Ça démarrera demain matin. Je veux bien qu'on aborde très brièvement la chose. Concernant la différence de petits points, une force ou une faiblesse à l'enfance et à l'adolescence, questionnement.
Voilà. 2 intervenants. Véronique Naoum-Grapp, qui est anthropologue, et Patrice Huert, pédopsychiatre, que nous connaissons bien, qui est déjà venu ici il y a 2 ans, s'interroger. Enfant, adolescent, une quête d'identité singulière, moi-je. Donc est un peu différent, c'est un atout, mais certaines différences sont des très grosses différences, des souffrances, des handicaps. Comment les chercheurs, l'anthropologue et le pédopsychiatre, et puis les pédagogues, peuvent essayer de transformer ces souffrances en atouts.
Eh bien écoutez, voilà. Merci pour ces pistes, on aura la possibilité dès demain matin d'en profiter. On le rappelle, c'est dès 9h, c'est ouvert à tout le monde, à toutes et tous. Comme évoqué précédemment, cela s'adresse vraiment à toutes les catégories sociales professionnelles et bien sûr à tous les âges. Dès demain matin, 9h, au Cinépâté à Évreux, on vous rejoint et on en profite.
Eh bien merci de votre accueil, à demain.
Merci beaucoup Jean.
Nous allons enchaîner avec le PAD de Olivier Pagani, Ce que peut le lion, un film qui a été diffusé hier, c'est ça.
Avec Olivier Pagani pour son film Ce que peut le lion, la narration avec le tu, la deuxième personne du singulier, Est-ce que ce tu est dirigé plutôt vers vous parce que vous parlez à vous-même quelque part à travers le film, ou alors est-ce que c'est un tu destiné au spectateur?
Non, c'est clairement destiné à moi-même. Ouais, c'est un film qui prend une forme d'essai, donc le tu, c'est un film qui s'adresse, enfin que j'ai fait en premier pour moi-même. Mmh. Et la solution de cette adresse, c'était quelque chose de commode au niveau narratif. Mais après, évidemment, le spectateur, lui, il va trouver son positionnement là-dedans. Mais bon, je fais toujours des films avec des voix, avec un nombre de voix complexes, avec des échanges. Donc le fait de dire je, tu, il, ça permet de multiplier les personnages. Mm. Là, j'avais besoin en fait de que ce soit moi-même à un moment donné qui m'apostrophe. Quoi. Voilà.
D'accord. On a entendu parler de s'en sortir. Faire les films pour s'en sortir, parler de cette histoire pour s'en sortir,
ouais.
Mais au final, se sortir de quoi?
Ah bah oui, c'est une bonne question. Je sais pas en fait, à chaque fois. C'est se sortir d'un brouillard général, mmh. Et la difficulté à mettre du sens sur les choses. Et à chaque film, je me suis attaqué à ce qui me semblait être la chose dont il fallait que je me sorte. Donc j'ai fait un film sur le langage qui s'appelait Sous la langue, qui mettait en parallèle l'homéopathie et la poésie, et qui terminait sur une conclusion que j'ai qui disait qu'il fallait se faire des auto-médications poétiques pour pouvoir s'en sortir dans la langue, que la langue était quelque chose à inventer toujours de manière subjective. Après, j'ai fait un film autour de la mort qui s'appelle Résidence Bachelard, avec en réponse la poésie de Bachelard et puis la biologie de l'évolution. Et là, pareil, j'arrivais à une conclusion que je prenais pour moi, hein, vraiment. Et j'en suis arrivé à ce film autour de l'état d'enfance et de la filiation. Mais donc, je ne sais pas à l'avance de quoi on sort. Je sais en écrivant et en cherchant. Voilà.
D'accord.
Et je ne sais pas de quoi je me sortirai la prochaine fois. Mais ouais, c'est ça un peu. Hein. En fait, on pense toujours, moi je pense toujours quand j'ai un film qui se précise qu'il y a un coup de projecteur énorme sur le réel. Et en fait, après la construction du film, il y a un film qui existe. Et puis ça s'embrume à nouveau. Mmh. On n'a jamais. Voilà. Et c'est, je pense que c'est l'eau de ce qui nous pousse à créer, quel que soit le domaine. Hein.
La quête du bonheur qu'on a tous dans la vie, et qui ressort un petit peu dans ce film aussi. Mais d'une certaine façon, j'ai pu remarquer que là, il y avait une quête du bonheur, mais pas personnelle. On avait l'impression que c'était une quête du bonheur.
Par enfant interposé
dans la filiation, et que quelque ouais. part vous essayez de construire le bonheur, mais pour votre fils.
Bah, j'ai essayé de me protéger de cet écueil là, le fait de charger le fils d'un bonheur dont le père n'aurait pas été capable. Enfin, le bonheur est pour tout le monde dans le film, comme horizon. Ça joue avec ces figures de conte vers une proposition de l'état d'enfance pour tous. Et pour le père y compris. Mais donc, je pense que ce serait une erreur énorme de dire à son fils, de faire un film à son fils en disant j'ai relativement échoué à être heureux, je te charge de l'être à ma place. Ça, ce serait vraiment quelque chose de catastrophique. J'ai plutôt l'impression que j'ai essayé de clarifier les choses dans un récit familial, dans sa version la plus épurée qui arrive à un conte, sans cacher, même en exposant, et puis pour faire de la place. Quoi. Il y a cette dimension-là. Je pense que pour être heureux, il faut aussi s'inventer sa vie. Et ce que je souhaite à mon fils, c'est de se foutre complètement de ce film, par exemple. Voilà.
D'accord.
Moi, j'ai eu besoin de le faire pour ça.
Principe actif 102.4 FM. Principe actif 102.4 FM.
Quelle est ma peur? Je ne sais le dire. C'est de là que tout naît, c'est de là que tout naît, c'est de là que tout naît, c'est de là que tout naît. Quelle est ma peur? Je ne sais le dire, ouais, ça dépend de mon humeur, de ce qui me fait souffrir, hey, battement de mon cœur.
Direct du cinéma Pathé à Évreux dans le cadre de cette émission spéciale consacrée au Festival du film d'éducation. Deuxième journée, hein, deuxième heure de direct, en compagnie des gens qui font un peu ce festival et en particulier les réalisateurs. Donc en la présence de Guy Mocquet, nous sommes avec Jean-Christian Riff. Bonsoir Jean-Christian.
Bonsoir.
Réalisateur de Au milieu du gué, un film que nous avons, enfin que j'ai eu personnellement le plaisir de voir ce matin. Un film qui, comme d'autres, mais celui-ci en particulier me concernant, nous donne beaucoup d'émotions. Si je prends le résumé proprement dit du petit programme, ça y dit « Difficile retour à la vie pour quatre jeunes toxicomanes qui essayent de se défaire de leur dépendance dans un centre de post-cure rural disposant d'une ferme et de terrains cultivables ». On n'est pas loin de la vérité, on pourrait rajouter bien sûr plein d'éléments. Jean-Christian, avant tout, comment pour vous s'est passée cette séance, puisque derrière il y a des échanges, un débat qui est forcément peut-être trop court pour vous.
Oui, là d'autant plus qu'il y a eu un petit problème technique et qu'on a dû abréger le débat. Donc ça a été assez court, ce qui est dommage parce qu'effectivement il y avait beaucoup de jeunes dans présent. La salle. Voilà,
et même vous si aviez dit en préambule que d'ailleurs ça vous tenait à cœur.
Oui,
qu'il y ait
oui,
des
oui.
Enfin,
parce que forcément, comme ce centre accueille quand même beaucoup de jeunes, en tous les cas à partir de 18 ans, et que c'est que ce problème de la toxicomanie touche les jeunes dès très très vite. Hein. Moi, en faisant le film, j'ai dit au début de la séance que je pensais beaucoup aux jeunes en faisant le film. Mais je pense qu'en faisant le film. Mais j'ai pensé aussi beaucoup aux parents. Et c'est pour ça que j'ai essayé le plus possible que dans ce film, que les résidents abordent leurs histoires passées très compliquées.
Alors vous, vous êtes réalisateur, c'est votre profession. Est-ce que c'était votre première autour de cette thématique ou de ce milieu ? Qui est la toxicomanie.
Oui. J'avais fait. Moi, j'aime bien faire des films dans un lieu unique pour y revenir souvent, pour y prendre beaucoup de temps, en fait.
Ouais, parce que vous avez évoqué que vous avez en tout, c'est sur 8 mois, c'est ça ? Un an et demi ? Et 8 mois de.
En tout, j'ai dû y être présent pendant un an et demi. Mais ce qu'on voit dans le film, c'est sur une période de 8 mois. Voilà.
Du coup, maintenant j'ai un peu la réponse, mais je voulais vous demander au départ si c'était suite à une expérience vécu, si c'était par rapport à un lien familial que vous aviez envie de toucher ce sujet, ou si c'était parce que, ou pour X raisons, d'ailleurs. Je me permets, j'ai pas envie d'être trop curieux, ni
non, non, y a
trop
pas de
personnel.
Problème. Non, c'est un ensemble. Moi, je pense que, je crois que, moi, je viens des années 60, hein, j'ai eu, forcément, j'étais en rapport avec la drogue, beaucoup plus d'ailleurs, par rapport à des amis proches qui ont beaucoup plus touché que moi. Donc forcément, on est obligé à un moment d'être sensibilisé par ça. J'ai fréquenté aussi, je fréquente encore des jeunes...
Consommateurs peut-être ?
Oui, ouais, de drogue douce ou de drogue dure. Et donc je... donc forcément, je suis sensibilisé à ça. Mais au départ, c'était aussi pourquoi. Il y a un certain nombre de circonstances. D'abord, j'avais vu un reportage d'Envoyé spécial.
Je veux balancer. Voilà. On a le droit. Allez, bon. Vous l'aviez vu sur France 2, sur France Télévisions, un reportage d'Envoyé spécial.
Au milieu des années 90, je crois. Donc
sur ce lieu.
Sur ce lieu, voilà. Ouais.
On le rappelle, le Gué, c'est un endroit dans la Drôme.
Oui.
C'est une ville, le Gué.
Le Gué. Non. C'est ce centre qui s'appelle comme ça, le Gué. C'est dans un petit village qui s'appelle Poët-Laval, de la Drôme provençale. C'est à 15 km de Montélimar.
Et donc là, vous voyez un film il y a 15-20 ans, sur un film documentaire sur ce...
Un reportage de télévision que j'ai détesté, j'ai envie de le dire. Et qu'il se trouve que, effectivement, à un moment, moi, je rencontre des gens de ce centre, ils ont envie de faire un film. Et je leur ai dit, moi, je veux bien faire un film, mais il faut qu'il y ait un accord très fort de votre part et que je veux y rester le plus longtemps possible et être libre. Voilà. Du tout être limité dans le temps.
C'est au départ un public particulier qui peut être écorché vif, qui peut être extrêmement sensible. D'ailleurs, on revoit, et j'invite sincèrement tout le monde à voir ce film. Ils le disent eux-mêmes, ils ont beaucoup de mal avec le regard de l'autre, l'acceptation du regard de l'autre. Mmh. Donc forcément, arriver avec sa caméra, filmer ces jeunes ou moins jeunes durant X temps, comment s'est faite cette acceptation ? Par cette simplicité que vous incarnez là en face de moi ?
Peut-être, oui, je ne sais pas. Quand on fait ce type de cinéma documentaire, c'est évident qu'il faut être dans la rencontre. C'est déjà la première chose.
L'écoute, bien sûr.
L'écoute, ouais. Il faut être. Faut montrer. Il faut donner des preuves pour que l'autre ait confiance. Bon, moi, entre autres, là, c'était de leur dire qu'à tout moment, ils pouvaient refuser une séquence que j'avais filmée.
Ou vous dire stop durant
voilà.
Une, quoi.
Ouais. Ils étaient totalement libres de dire on arrête ou coupez, là. C'est arrivé une ou deux fois, pas très souvent. Voilà. Et ils pouvaient aussi, avec le recul, me dire non. Et je dois dire que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est que plus ça allait, plus ils avaient une confiance et aussi eux-mêmes envie. Ils comprenaient un peu ma démarche et ils ont envie de vraiment témoigner et de dire beaucoup de choses d'eux.
Alors du coup, est-ce que pour certains, ça a contribué à un effet peut-être thérapeutique ou à une... Je veux l'imaginer. Après, vous n'êtes pas en position de pouvoir l'affirmer.
Oui.
Moi, je veux l'imaginer. Est-ce qu'ils se sont revus ? Est-ce qu'ils ont vu la fin du film ? Est-ce qu'il y a une projection plus personnelle entre vous ?
Oui. Ils ont... Enfin, ceux qui étaient là là ou pas loin, et ceux qui ont donné des nouvelles ont bien sûr vu le film et différentes fois. Et d'ailleurs, là, ils n'ont pas pu venir, mais très souvent, j'ai fait des projections avec Lisa et Rodolphe.
D'accord. Ouais. Deux personnages, mais complètement attachant à la vision de ce film.
Ouais,
Rodolphe, un personnage atypique, mais rempli de bon sens, de réflexion, d'intelligence, avec malheureusement des parcours et des enfances difficiles pour les deux.
Ouais,
et Lisa aussi, pardon.
Ouais,
donc je vous ai coupé, mais il fallait que je revienne dessus.
Non, mais vous me disiez la question de est-ce que ça a été thérapeutique pour eux ? Ça, c'est plus... à eux de le dire, mais ce que je sais, c'est que Rodolphe, il a continué, par exemple, ce film, il a continué, parce qu'après, quand il est sorti, lui, il était, par exemple, suivi avec... Il continue à être suivi par un éducateur. Il était en ce qu'on appelle en... maison...
maison de jour, maison enfin dispositif.
Voilà. Ouais. Et donc, il voyait régulièrement un éducateur et ils ont travaillé aussi avec le film après. Et lui, il l'utilise de temps en temps. Ouais.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal abordé la chose. Est-ce que... Alors, j'aurais voulu vous interviewer, le temps nous est compté, vous reprendre à partie sur le directeur, formidable directeur de cette structure, un bel exemple d'humanité, de pédagogie, de justesse dans les propos et les échanges avec ces jeunes toxicomanes. Hein, oui. Voilà, de vraies histoires de vie, de vraies personnes avec, comme je me suis permis de le dire tout à l'heure, des personnes qui sont au départ peut-être dans l'ombre et que là vous avez sincèrement, et vous le méritez de l'entendre, et que vous l'entendiez, vos auditeurs, auditrices, mis en lumière, avec toute la sensibilité et les qualités qui les caractérisent, au milieu du guet, à vous conseiller fortement, mesdames et messieurs, dames qui êtes en train de nous écouter. Jean-Christian Riff, mille merci. Est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez souligner, une motivation pour peut-être... un point que j'aurais, parce que là on est forcément pris par le temps.
On a peu parlé de la forme du film.
Pardon.
C'est vrai que moi je voulais pas faire un film avec des interviews et un commentaire. J'ai vu que c'était possible dans ce lieu. Donc, à partir de là, il fallait que je trouve ma place, mon point de vue. C'est une caméra qui est souvent sur pied,
fixe
avec quelques panoramiques. C'était pour essayer le plus possible de toucher peut-être ce que parfois touche d'une manière très forte le cinéma de fiction, c'est une sensation des choses, êtres, de l'instant. Et que peut-être que le documentaire, vu qu'il y a... qui a un aspect très extérieur. Quand on fait une interview, on est par exemple, il y a le temps qui coule,
on est peut-être moins naturel.
Oui, ou on est, en tous les cas, on n'est pas forcément dans une intériorité. Là, je laisse un blanc.
Je vous en prie.
J'ai l'impression que le cinéma, en tous les cas, pour moi, c'est ça. C'est essayer de rendre sensibles des intériorités.
Eh bien, écoutez, voilà. Ça, si ça doit être le mot de la fin, il sera parfait. Merci beaucoup, Jean-Christian. Et sincèrement, au milieu du guet, à conseiller fortement, comme d'autres projections, mais en particulier celui-ci. Jean-Christian Riff, mille merci. Longue vie à ce film qui, j'espère, pourra être vu et apporter réflexion, matière, instruction, toutes ces émotions et ces possibilités à un jeune public ou plus ancien. Merci beaucoup, on s'accorde une mini pause de musique et on revient, excusez-moi, mon réalisateur me fait les gros yeux. Je récupère ma feuille qui va bien.
Alors,
et je vous
un
dis
PAD en direct. Est une interview réalisée au préalable, donc pas en direct.
Voilà, donc c'est tout de suite maintenant. Alors, je me retourne vers mon une pause musicale, on s'accorde. Allez, pause musicale, soyons fous, c'est les aléas du direct. Merci Jean-Christian,
merci.
Au plaisir.
Sin. Mama don't want no chance. pretend, cause it's bound to make her sin, since it keeps her hot and bothered all the day. Mama, 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 she likes the rum. 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 Chest. Mama complains she's got a pain across her chest. Mama complains she's got a pain, and the reason is very plain, and the food that Papa gave her, it won't digest. Mama, she likes the rum. Mama, 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 she likes the rum. Mama, 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 she likes the rum. Mama, 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 she likes the rum.
Eh bien, nous sommes toujours au Festival du film de l'éducation, au Ciné-Pâté à Évreux, avec la radio Principe Actif. Et là, tout de suite, nous recevons Judith Josseau, réalisatrice du film Broadway. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le film, rapidement, le point de départ, c'est l'histoire d'une valise avec l'inscription Broadway, d'où le titre, à l'intérieur des photos faites par votre grand-père, photographe, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas tout à fait. D'accord. Certaines photos.
Oui, certaines.
Certaines photos. Ouais. À partir de ces photos, vous partez à la recherche du passé de votre arrière-grand-mère, Rosa. Là, j'ai bon ?
Oui.
Ça va alors. Alors, celle-ci était d'origine allemande, mais est venue vivre en France un peu plus tard, en fait, ça ?
Avant la Première Guerre mondiale.
Avant la Première Guerre mondiale. Donc, votre arrière-grand-mère est née en 1853
1883,
oui, ça me paraissait. Ouais. D'accord. Alors, vous avez une formation dans le domaine des arts plastiques. Du coup, c'est pas un hasard si le point de départ du film, c'est un objet qui vous permet d'utiliser votre famille comme objet d'étude. On notera également un travail intéressant de montage entrecoupé d'interviews très rythmées des membres de votre famille et des images d'archives soutenues par une musique assez présente. Et du coup, quel lien on peut faire entre l'objet et la personne à partir de ce film ?
Oh, entre c'est l'objet bizarre. Et la personne ? Quelle personne déjà ? Bah, du les coup, personnes du film, la mienne
Alors l'arrière-grand-mère peut-être.
Ah, l'arrière-grand-mère.
Il y a la valise évidemment, le lien entre la valise et... Et votre arrière-grand-mère ?
En fait, alors le lien, la question du lien, ça c'est compliqué. Parce que justement, j'ai du mal à comprendre en fait,
bon,
la question.
Alors, et le passage des arts plastiques au cinéma, ça se fait facilement ?
Alors ça, non, ah. Ça c'est difficile.
Ah. Bon, que des questions pièges, ok.
Non, c'est pas une question piège, c'est une question très intéressante. D'abord, si j'ai commencé par l'art plastique, en fait j'ai commencé par communication et au fur et à mesure je suis arrivée à l'art, donc j'ai mis quelques années, j'ai mis 5 ans à faire ce parcours et j'ai dérivé de plus en plus, je me suis éloignée en fait vraiment de la communication. Après, une fois qu'on a fait les Beaux-Arts, c'est assez difficile de faire des films parce que c'est plus simple quand on a fait une école de cinéma d'avoir les réseaux, de pouvoir aller rencontrer des gens parce qu'on a des premiers films d'école, voilà. Moi je viens de la vidéo quand même, ce qui est pas mal, hein. Déjà ça aide, photos et vidéos, j'étais déjà monteuse à l'école aussi, donc bon, ça aide, voilà. Mais j'avais pas les réseaux et je pensais qu'en plus il fallait avoir fait beaucoup d'études pour faire un film, mais je sais pas, je pensais que c'était pas pour moi, que c'était trop compliqué, voilà. Mais pourtant j'avais vraiment envie de raconter des histoires.
Ça sous-entend que c'est votre premier
C'est le premier 52 en tout cas.
D'accord.
Parce qu'autrement je fais des formes assez longues, déjà je vais jusque dans les 20-30 minutes, Mais ce format-là, en tout cas, plutôt, on va dire, télé, cinéma, c'est la première fois.
Alors, moi, j'ai envie de vous demander pourquoi ce film ? Est-ce que c'était nécessaire de comprendre votre passé ? Et est-ce que, du coup, ce film apparaît comme une forme de thérapie cinématographique ?
Alors ça, non, mais en fait, c'est marrant parce qu'on m'a souvent posé la question, est-ce que ça vous a servi de psychanalyse ? Est-ce que, alors,
malgré qu'on peut rassurer tous nos auditeurs, vous avez l'air d'aller très bien.
Oui, je vais très bien.
On est rassurés.
Non, je pense que ce film était nécessaire pour répondre à des questions, mais pas forcément aux miennes. Pour répondre aux questions et aux attentes de gens que j'ai rencontrés depuis des années. Voilà. J'aime bien, quand je fais un projet, en général, d'en parler avant de le finaliser ou avant de le mettre en place ou avant d'écrire. Et au tout début de la recherche de ce film, justement, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, mais moi aussi, j'ai un secret de famille. Tiens, mais moi aussi, ça me touche. Voilà, vas-y, fais-le. Voilà. Donc, moi, ça ne m'a pas servi de psychanalyse. Je pense que ça ne sert pas de psychanalyse aux autres non plus. Je pense qu'il faut faire une psychanalyse si quelqu'un en a besoin par ailleurs. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais l'objet cinéma ne sert pas à ça. Ça sert, par contre, à peut-être aider les gens ou ouvrir sur des champs ou permettre des réflexions. Voilà.
Alors aujourd'hui, le film est projeté dans le cadre du Festival du film d'éducation. Quel est le message du film pour les jeunes générations de spectateurs ? Est-ce que c'est la nécessité ou le besoin de connaître son histoire ? Le devoir de mémoire, à double sens, puisqu'il y a votre histoire personnelle, mais aussi l'histoire avec un grand H, avec le lien avec les guerres mondiales vécues par votre arrière-grand-mère. Le rapprochement entre les peuples, le couple franco-allemand, en ces heures compliquées de crise de l'euro et de manque de stratégie commune au sein de l'Europe. Ou également le rapprochement entre les peuples avec ce souvenir de votre arrière-grand-mère laissant sa porte ouverte aux Tziganes, persécutés pendant ce temps-là par des frères allemands pendant les secondes guerres mondiales. C'est un peu vaste comme question.
Non, mais en fait, c'est tout ça. Je pense que c'est tout ça. C'est-à-dire que quand on fait un film, il y a forcément un lien, une histoire qui se fabrique. Et puis après, on essaye de mettre des choses dedans auxquelles on croit ou des choses qu'on a envie de défendre. Moi, l'Europe, franchement, je m'en fous. Moi, je pense le monde. Je pense ça plus intéressant. Voilà, parce que si on commence à penser que l'Europe, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc, voilà, j'aimerais bien partir en Palestine, par exemple, pour faire d'autres images aussi. Voilà, j'aimerais bien aller plus loin que l'Europe. Et c'est vrai que déjà, si on pense justement déjà à ce niveau-là, de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé déjà, ce qui reste encore comme rancœur, parce que quand j'ai fait ce film, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai eu des retours par rapport à des personnes, des historiens qui ont été très violents avec moi. Enfin, oui, c'était assez dur aussi, parce que il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, il ne faut pas dire, il ne faut pas. Les Allemands, c'est encore des boches. Enfin, ouais, c'est des trucs pour certaines personnes âgées. Voilà.
Dans le film, on évoque à un moment le fait que votre arrière-grand-mère aurait été traitée de sale boche, des menaces de tête rasée, comme on a fait avec les femmes ayant sympathisé avec les Allemands. Donc c'est aussi assez traumatisant. Enfin, il y a encore cette vision-là qui reste en France et peut-être aussi en Allemagne.
Oui, alors ce qui est assez traumatisant d'ailleurs, c'est que j'ai un de mes amis qui est de ma génération, qui a 40 ans, donc c'est jeune, donc, et qui lui est né en Allemagne, et qui est français pourtant, et qui a grandi en France, mais qui a toujours été traité de boche, justement. Et c'est un truc, c'est aussi pour lui que je fais ce film aussi, c'est-à-dire que les choses ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire qu'on ne décide pas une paix, ça continue, les choses continuent. Voilà, donc,
On s'entend bien maintenant avec les Allemands.
Ah bah oui, mais comme quoi il y a des gens qui n'avancent pas aussi, ça dépend de l'éducation, ça dépend où on grandit.
Alors pour conclure, le film est dédié à votre père, donc c'est vrai que le lien n'est pas forcément évident quand on sait que vous parlez de votre arrière-grand-mère, et j'écoutais les discussions à la fin, le prochain film que vous allez réaliser parlera de votre père. Alors, une question un peu idiote, est-ce que vous êtes en train de vous spécialiser dans les films familiaux ? Ou plus sérieusement, est-ce que votre unique objet de réflexion, entre guillemets, c'est la famille ? Ou à l'inverse, il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder dans le prochain film ou dans les suivants, ou maintenant à l'antenne avec nous ?
Alors, l'histoire, le film par rapport à mon père, d'abord, c'est plutôt un voyage au Laos, donc, qui va s'effectuer, mais en mémoire de mon père. Donc, c'est, voilà. Donc, c'est pas vraiment lié à mon père. C'est lié, enfin, c'est plus lié aussi à la fin de vie, enfin, au cancer, à l'accompagnement en fin de vie, ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est, voilà, c'est plutôt
général. C'est bien plus global.
Oui, c'est bien plus global.
Mais il y a quand même un rapport au voyage. Puisque dans le film aussi, oui, Broadway, il y a, oui, ce voyage en Allemagne qui est indispensable.
On revient sur, du coup, tout à l'heure, les frontières. Oui, vous sentez citoyenne du monde, pardon.
Et on reparle justement un autre film aussi. Je vais mener deux films de front. Donc celui-ci, Voyage au Laos. Et puis un autre, j'ai commencé à entamer aussi les repérages. Je vais suivre pendant un an des forains. Des gens qui travaillent sur des fêtes foraines. Donc j'ai commencé à repérer plusieurs familles et je vais essayer d'aller avec eux, voilà, de voir comment ils vivent. Donc là, ce n'est pas lié à ma famille, c'est lié à leur famille, à eux. Ouais, mes voyages aussi.
Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut qualifier Broadway de film autobiographique ?
Ah bah oui, forcément. Mmh. Oui, oui.
Mais je me posais la question parce que je ne suis pas très calé en cinéma. Et puis... ça parle de votre grand-mère, mais vous êtes quand même bien présente dans le film. Et,
voilà. Oui, non, ça ne me dérange pas. Avant celui-ci, en fait, j'avais fait un boulot très proche aussi, qui s'appelait Au fur et à mesure. En fait, j'ai filmé ma grand-mère, donc sa fille à elle, des années 90 jusqu'à 2005, jusqu'au moment où elle est morte. Donc c'est pareil, voilà, c'est un cheminement aussi, un portrait. Voilà, donc c'est aussi autobiographique. C'est vrai que je suis quand même dans cette...
Sans pour autant, au départ, savoir que vous alliez en faire un film ou autre, c'était peut-être un devoir de mémoire ou une espèce de conservation de l'histoire ?
Non, si, je savais que je voulais en faire un film, parce qu'en fait, c'était un choix aussi, c'était de filmer un corps vieillissant. C'est, quand on est aux Beaux-Arts, on ne fait que de la belle photo, les mannequins, les super nanas, et moi, j'avais envie de filmer autre chose. Je trouvais ça intéressant. J'avais quelqu'un qui se prêtait au jeu de la caméra, qui était capable de se mettre nu devant moi, même à 70 ans, même à 90 ans. Voilà, et c'est hallucinant. Et je me suis dit, il faut que je prenne... il faut vraiment que je saisisse cette occasion pour pouvoir présenter ça et pouvoir livrer ça au regard des autres. Et c'est montrer qu'un corps vieillissant, ça peut être très beau aussi.
C'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité avec le vieillissement de la population. Et on aura de plus en plus de personnes âgées jusqu'à...
Alors moi je dirais que ça devient de plus en plus d'actualité avec toute la chirurgie esthétique et voilà.
C'est un contre-pied au corps c'est parfait plutôt, comme on peut voir dans aux Beaux-Arts.
Et... Voilà. Et ça je trouve ça plus intéressant justement d'être dans ça, dire accepter de vieillir, accepter
son
les rides,
corps,
accepter
son physique.
Voilà, arrêter.
Nous sommes tout à fait d'accord, très chère Judith.
Il faut conclure.
Oui, on est pris par le temps.
Alors, on va vous remercier, Judith Josso.
Doublement.
Merci à vous.
Tout à fait. Et puis, on conseille à tout le monde d'aller voir Broadway. Et puis d'aller voir les prochains. Il y a un titre pour le prochain.
Voyage au
Laos. Oui, vous l'avez dit. Pardon. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Judith. Tu vas me permettre, Guy Moquet, d'évoquer brièvement mon après-midi au Festival du film d'éducation qui s'est... Merci beaucoup encore, qui m'a provoqué une découverte forte, puisqu'en fait, j'assistais à des web-documentaires. Alors les web-documentaires, au départ, ça peut paraître un petit peu j'ai envie de dire, grossier comme terme. Déjà, il y a le web dans le terme, il y a le documentaire, on peut se demander le lien. Et en fait, j'ai découvert quelque chose, donc c'est bien, j'ai été complètement... j'ai été complètement neutre au départ. J'ai assisté à trois visionnages de web documentaires, La vie à sac, je vais aller dans l'ordre, Voyage au bout du charbon, La vie à sac et Les communes de Paris. Alors, avant de développer, je voudrais juste expliquer un petit peu ce que c'est, de manière très naïve, puisque je l'ai découvert ainsi. Un web documentaire, c'est une manière, avec mes mots, ma vision perso, c'est un petit peu le moyen de découvrir... de vivre une histoire et de la mener quelque peu. C'est-à-dire que c'est très ludique. On utilise bien sûr une souris, ça clique, mais c'est surtout qu'on a des possibilités. On avance d'une étape et là, plusieurs possibilités. possibilités s'ouvrent à vous. Là, vous rebondissez, vous cliquez, vous atterrissez sur un suivi d'histoire, sur une alternative, une possibilité, et vous pouvez bien sûr revenir en arrière. Bref, en fait, c'est un cheminement que vous menez vous-même. Donc, quelque part, c'est très riche, puisque vous en êtes quelque peu l'acteur du web documentaire, même si on peut rester impressionné et surtout respectueux du travail réalisé. Mais bref, pour revenir sur, par exemple, le Voyage au bout du charbon, qui semblerait, pour avoir entendu d'autres personnes derrière, le premier film documentaire reconnu, web documentaire reconnu, eh bien, je vous invite fortement à aller vous le visionner. Voyage au bout du charbon, on peut le voir sur lemonde.fr. Eh bien, sachez que c'est très ludique, c'est informatif, c'est instructif. On peut passer du temps, se l'approprier 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc, on n'est pas obligé de le digérer dans sa globalité. C'est vraiment une nouvelle approche de l'enquête journalistique. Hein, j'ai relevé aussi cette expression. Bref, une manière sympathique et innovante et qui va, à mon avis, compter dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, de plus en plus. Bref, vraiment, vraiment une forme très intéressante du film documentaire que le web documentaire. Donc, Voyage au bout du charbon, on va voir en plein cœur des mines chinoises, des acteurs majeurs de cette énergie qui est indispensable pour créer tous ces éléments qui font partie de notre quotidien. Derrière, la Via Sac, c'est plus vite fait quelque chose réalisé dans le cadre de Reporters sans frontières, pardon, de Médecins du Monde. C'est très chouette, on part d'un objet et puis on clique et on voit un petit peu son histoire. Je vous laisse découvrir. Et puis Les Communes de Paris, une manière plus ludique aussi de découvrir Paris et ses alentours. Bref, de la curiosité, de l'expression, de l'émotion. Bref, les web documentaires, il faudra compter avec eux dans les années à venir, c'est sûr et certain. Voilà, pour notre part, il nous reste 3 minutes. Me faisons signe, puisque du coup ça me speed et ça me stresse et j'aurais envie de développer davantage. Peut-être pour évoquer la journée de demain. Et même très certainement la journée de demain, qui, comme vous l'avez vécu aujourd'hui, sera composée de réalisateurs. Hein, ces réalisateurs qui font le festival, bien sûr, mais c'est bénévole et c'est membre du CMA. Demain, des projections multiples, une table basse ronde, mais basse. La différence, deux petits points, une force ou une faiblesse à l'enfance et à l'adolescence. Encore un vaste sujet avec des professionnels et puis une salle pleine, j'en suis persuadé, qui vous permettront d'être acteurs passifs ou actifs de ces échanges qui seront multiples. Des projections, en voulez-vous, en voilà, toute la matinée, tout en début d'après-midi. Bien sûr, l'avant-dernière journée, justement, avant les résultats qui se font attendre, qui seront samedi. Venez en profiter pleinement ce soir, venez en profiter pleinement demain, toute la journée. On est au cinéma Pathé Zénith, anciennement Zénith, à Évreux. Nous sommes en direct depuis hier, entre 17h et 18h. Vous le vivrez encore demain, entre 17h et 18h. Guimauquet, toi, pour ta première journée, qu'est-ce que tu pourrais résumer? Quels ont été les mots forts? Qu'est-ce qui t'a marqué? Voilà, est-ce que t'as 2-3 termes comme ça qui pourraient nous réchauffer, nous
alors
donner envie.
C'était ma première journée, mais ce sera la seule. Désolé, je ne serai pas là demain. Quel dommage. J'aurais bien voulu assister à une deuxième journée de ce festival parce qu'on découvre plein de gens sympas avant tout. Il y a beaucoup de jeunes et c'est évidemment normal puisque c'est le film de l'éducation. J'espère que ces jeunes perçoivent les messages que les adultes essayent de leur faire passer, qu'ils en retiennent des choses. Ça me
et
paraît...
que les adultes aussi en prennent bonne graine.
Voilà, ça va dans les deux sens aussi. Le fait qu'il y ait un jury jeune va dans le sens de cette démarche. Moi, j'ai vu que Broadway aujourd'hui, donc on était en interview juste avec la réalisatrice juste avant. J'ai pas vu d'autres films, je suis un peu déçu, j'aurais dû venir un peu avant. Tant pis, vous en profiterez, puis vous me raconterez ça.
Exactement.
La semaine prochaine. Quoi.
Exactement. Sachez donc que l'on se retrouve demain à 17h pour vivre pour la troisième journée d'Affilée nous concernant et l'avant-dernière journée de ce festival. Le contenu, le vivant, la qualité, l'enrichissement et surtout les événements du jour. Ce soir sur Antenne de Principe Actif, une rediffusion de l'émission CQFD. Ensuite, vous aurez le droit, nous sommes jeudi, aux 20 balles de rap, hein, les intéressables 20 balles de rap. Émission consacrée au rap français de 19h à 21h. Et puis la playlist musicale qui fait la part belle bien sûr aux groupes locaux. On vous remercie beaucoup. On remercie bien sûr notre technicien en chef JC. On remercie les gens qui nous ont reçus. On remercie les réalisateurs et les gens qui sont venus autant de nos micros. On remercie tout le monde. On vous remercie vous, nous écouter principalement. À demain. Merci. Au revoir.
Ciao.